Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
Bonjour. Issu du milieu ouvrier, position sociale qu'il revendique d'ailleurs, Franck Juré est enseignant à Sablé d'abord, puis au Mans actuellement. Il vient à la littérature via le collège, où des professeurs, manifestement, ont senti qu'il avait un potentiel en lui. Le résultat, deux livres dont on va parler maintenant. Bonjour Franck Juré.
Bonjour Bertrand Coudreau.
Eh bien, d'abord, on va peut-être commencer par les présentations, parce que c'est pas certain que les auditeurs vous connaissent. Alors, qui êtes-vous d'abord ?
Alors, en quelques mots, j'imagine.
Votre biographie complète. peut-être pas quand même.
Rétro, hein, je suis déjà assez âgé quand même. Non, mais je m'appelle Franck Juré, je suis originaire du Mans. Enfin, je suis né au Mans, donc je suis un Sartois pur souche. Et puis, j'écris maintenant depuis plus de 30 ans.
30 ans ? Ah oui. Donc là, ça confirme bien ce que je pensais. Vous avez pris du temps, en fait, pour écrire.
Alors, en fait, j'ai pris du temps. Non, j'ai commencé à écrire quand j'étais adolescent, au collège. Sauf que pendant plus de 30 ans, je n'assumais pas, on va dire ça comme ça, je n'assumais pas d'écrire ce que j'écrivais. Donc, ça restait dans les tiroirs et je montrais ce que j'écrivais à personne.
Ah, c'est l'éternel problème de l'écrivain débutant ou de l'écrivain qui doute. La peur d'être jugé, d'être mal jugé, est-ce que je suis bon, pas bon? Donc on hésite.
C'est ça, et puis la peur de ne pas forcément être compris ou que les textes ne soient pas forcément interprétés comme on le voudrait. Et puis sans doute un manque de confiance aussi, certainement, hein, je pense.
Ouais, dès qu'on est dans la création, je pense que tout le monde rencontre un peu ce souci, hein, je pense.
Vous n'êtes sûrement pas le seul. Ça, je crois que c'est un passage obligé. Et puis en même temps, ça, je pense qu'il faut rester humble dans tout ce qu'on fait et dans l'écriture aussi, j'imagine.
Bah, c'est peut-être finalement le meilleur secret de réussite.
Peut-être.
L'humilité.
On verra.
Voilà. vous avez des dons en écriture très tôt, en fait, d'après ce que j'ai compris. Mais manifestement, vous avez donc attendu, comme on vient de le dire, un certain temps avant de vous lancer, puisque votre première publication date de 2020.
Exact.
Alors effectivement, vous venez de me dire que vous écrivez depuis 30 ans, mais il a fallu attendre 2020 pour qu'enfin un premier bouquin sorte. Et donc ça complète ce que vous venez de me dire. J'ai oublié de préciser d'ailleurs tout à l'heure dans votre présentation que vous êtes né au Mans. Oui. Et que vous êtes professeur de français. Ça, je crois qu'on avait
au Mans aussi.
Au Mans aussi, hein, voilà. Et donc ce premier ouvrage en question, qui a été publié chez Eddie Livre, je le précise en passant, s'intitule « Couleurs poétiques ». Alors, pourquoi d'abord la poésie plutôt qu'une autre forme littéraire ? Après tout, quand on se décide au bout de 30 ans à enfin publier, vous n'avez pas forcément choisi la voie la plus simple.
J'ai envie de vous dire que je ne l'ai pas choisi non plus. Tout simplement. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire de la poésie, je le disais tout à l'heure, quand j'étais adolescent. Et c'est même pour ça que mon professeur de français de l'époque, à qui je pense, Jocelyne, qui n'est plus vivante aujourd'hui.
Eh ben, on lui rend hommage,
c'est comme ça qu'elle m'avait remarqué. Et puis, j'ai continué à écrire de la poésie pendant très 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 longtemps. Je me suis essayé à un premier roman autobiographique il y a une dizaine d'années, que j'ai arrêté parce que je ne comprenais pas, enfin j'avais pas le déclic pour l'écriture narrative.
Vous ne le sentez pas.
Donc je ne sentais pas du tout. Je me suis relancé dans la poésie jusqu'au premier recueil Couleurs poétiques, sorti en 2020.
2020, donc voilà. Alors, en gros, on peut peut-être quand même un petit peu résumer. D'ailleurs, vous le dites sur le site des auteurs du Maine et du Loir. C'est la poésie de votre cœur et de votre expérience d'homme. C'est ce que vous avez transmis comme message sur le site des auteurs du Maine. Alors, vous confirmez ça ?
Je confirme ça. Puis l'idée, c'était de dire aussi que le poète, quelque part, c'est une forme d'intermédiaire, hein, entre son inspiration et le lecteur. C'est-à-dire, on n'est que des intermédiaires, en fait. Hein. Et on écrit avec le cœur, parce que je ne vois pas comment on peut écrire autrement qu'avec le cœur, justement. Ou alors ça veut dire que l'écriture est quelque chose de mécanique, d'automatique, quelque part. Et moi, ça ne me convient pas du tout.
Des passeurs de mots.
Des passeurs de mots, voilà.
Ce serait un peu ça. Alors, le mot couleur, c'est, je suppose, toutes les couleurs du monde, de votre vie.
C'est un peu ça.
C'est un peu ça. Ou est-ce qu'il s'agit en fait aussi d'une autobiographie sous forme de poésie ? Parce que il y a un peu de ça, j'ai l'impression. Hein.
C'est un peu des deux, effectivement. J'ai choisi quatre couleurs qui dépendent en fait. Le recueil est divisé en quatre couleurs qui dépendent en fait de mes humeurs. Voilà. Donc il y a des poèmes plutôt sombres, il y a des poèmes plutôt joyeux, et en fonction justement de cette tonalité-là, ils sont répartis dans telle ou telle couleur.
Alors, ce n'est pas les quatre couleurs primaires pour le coup.
Du tout.
Parce que quand c'est un peu sombre, on pense plutôt au noir. Alors, au gris.
Il y a du noir, il y a du vert, il y a du rouge, parce que j'écris aussi des poèmes plutôt sensuels. Voilà, donc j'essaie de répartir en fonction de ces quatre couleurs-là.
Ah oui, oui, oui. Le rouge, vous considérez que c'est une couleur sensuelle ? Moi, je sais pas, j'avoue que j'ai jamais pensé à ça, mais bon...
Je l'avais assimilé à ça, parce que c'est vrai que le rouge, pour moi, ça me fait penser à la chaleur humaine en particulier. Et c'est vrai que, automatiquement, j'ai associé les deux ensemble.
Et vous parlez de bonheur.
Oui.
De passion.
Oui.
De mélancolie,
oui.
Mais aussi de souffrance, de périodes heureuses, oui. Et plus difficiles. C'est ça, c'est un mélange de tout un ensemble de sensations qu'on a dans une vie, depuis sa naissance jusqu'au dernier jour.
Tout à fait, c'est pour ça que j'avais parlé d'expérience d'homme, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que l'idée c'est de montrer que la vie elle est faite de haut et de bas, tout simplement, hein. Et là-dessus je n'échappe pas à la règle, hein, on est tous comme ça. Donc je voulais aussi parler des deux, des choses que j'ai vécues avec bonheur et des choses que j'ai vécues plus difficilement.
Et finalement, quand c'est plus difficile, est-ce que c'est quelque part positif dans le sens où le fait de l'écrire sous forme de poème, un moment difficile, c'est l'évacuer ce moment difficile. C'est en quelque sorte dire je veux plus entendre parler de ce problème. Je veux plus entendre parler de toi qui m'as posé un problème ou de quelque chose.
Ouais, j'ai toujours maintenu l'idée que l'écriture pouvait avoir une vertu thérapeutique. D'ailleurs, c'est ce que je fais avec mes étudiants en ce moment. L'idée, c'est qu'à travers l'écriture, on puisse effectivement se débarrasser quelque part des mots, grâce aux mots, justement.
Étonnant.
Voilà, qui peuvent nous pourrir la vie d'une certaine façon.
C'est finalement le paracétamol de l'âme, hein, l'écriture.
D'une certaine façon.
Je ne sais pas.
Oui, on peut dire les choses comme ça.
On pourrait appeler ça comme ça, un petit peu.
Je pense que l'écriture fait du bien, que la lecture fait du bien. Et je pense que s'exprimer, que ça soit par l'écriture de poésie ou bien autre chose, ça fait du bien de toute façon.
Ah oui, puis quand je dis paracétamol, quand c'est quelque chose qu'on veut évacuer, mais après c'est peut-être de la vitamine C à haute dose, quand on s'éclate complètement.
D'une certaine façon aussi, oui, je pense.
À couper ça. Pourquoi choisir la poésie plutôt que la prose ? Parce que vous m'avez dit que vous avez essayé d'écrire un roman,
oui.
Mais il n'empêche, on peut aussi écrire de la poésie en prose, on peut être un poète en prose.
C'est une bonne question. D'ailleurs, je me suis essayé à ça aussi. Le premier recueil, il est vraiment écrit en
vers.
Sous forme de vers. Voilà, c'est vraiment du vers, c'est de la poésie pure, j'ai envie de dire. Le deuxième recueil aussi... sauf que dans le premier recueil, je m'étais tenté à raconter une histoire par le biais de la versification. C'est-à-dire que j'ai écrit ce que j'appelle moi de la poésie narrative. Voilà. C'est-à-dire que je raconte une histoire, c'est l'histoire d'une femme par exemple, d'une rencontre dans le premier recueil. Et plutôt que de le raconter sous forme narrative et en prose, eh bien, j'ai décidé de l'écrire sous forme de vers et de poésie.
Oui, ça se fait beaucoup d'ailleurs... Je pense à la chanson, où souvent, dans les chansons, c'est finalement de la poésie narrative, où on raconte une histoire, j'ai rencontré quelqu'un, un carrefour.
C'est quelque chose que je rappelle souvent à mes élèves, mais la chanson et la poésie sont forcément très liées, puisque l'ancêtre de la chanson, c'est quand même la poésie, puisque au Moyen-Âge, les troubadours chantaient, clamaient leur poésie, donc on est vraiment très, très liés.
Oui, peut-être que François Villon a été chanté, puis on n'en sait rien.
Mais oui, probablement,
parce qu'à cette époque-là, au Moyen-Âge, effectivement, c'était...
Oui, puis accompagné d'instruments de musique, la lyre en particulier. Hein, donc, il y a vraiment des liens à faire entre les deux.
« chandelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage.
À l'écoute des mots sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com.
Là, on a abordé le premier livre. Et il y en a un deuxième donc, qui est sorti, qui s'appelle « Les épines et les roses », où on retrouve ce thème, évidemment. Il est d'ailleurs dans le titre, le thème des épines et des roses. Et là aussi, finalement, dans le titre, on retrouve ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les choses difficiles et les choses agréables. Une rose, c'est à la fois joli, ça peut être parfumé, mais il y a aussi des épines. Attention de ne pas se piquer.
C'est ça. Alors, en fait, c'est le deuxième recueil, mais il y en a un troisième qui est sorti aussi. Hein.
Je suis en retard, là.
le deuxième recueil, Les épines et les roses, c'est une manière aussi de mettre en avant toute l'ambivalence de la vie et de l'être humain. Parce que voilà, il n'y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas de nuit sans jour, il n'y a pas de vie sans mort, il n'y a pas de mort sans vie, etc. Et moi, je pense qu'il est bon aussi de se rappeler que pour profiter des belles choses, il faut aussi se souvenir qu'il y a parfois des moments plus durs.
Voilà, ben oui, simplement. Il y a des jours où on est de mauvaise humeur, des jours où on est très joyeux, voilà, des jours où on est colérique et des jours où on
et
a envie de se marrer.
L'être est fait de cette complexité-là, tout comme la vie. Et puis c'est vrai que les belles roses, moi je suis aussi amateur de fleurs, j'aime beaucoup les fleurs. Les belles roses aussi, c'est parfois au détriment des épines qui peuvent nous écorcher la main quand on les ramasse. Voilà.
Alors finalement, le deuxième, est-ce que c'est une suite du premier? Est-ce que c'est ou un complément du premier? C'est-à-dire des choses que vous êtes rendu compte que finalement, il y avait des choses que vous aviez envie de dire auxquelles vous n'aviez pas pensé dans la première fois? Ou est-ce que c'est vraiment deux livres déjà qui sont différents?
Non, je pense que le deuxième, c'est une forme de maturité par rapport au premier. C'est-à-dire que dans le premier, j'avais mis beaucoup de poèmes que j'avais écrits donc, des années auparavant, que j'ai un petit peu améliorés, modifiés parfois, revus, corrigés aussi, et que j'avais mis dans le premier recueil. Dans le deuxième recueil, je n'ai mis que des textes que j'ai écrits très récemment. Donc déjà, il y a une forme de maturité qui n'existait pas forcément dans les premiers. Et c'est normal, quand on écrit un poème à 20 ans, c'est autre chose que quand on l'écrit à 45, 50 ans. C'est plus vraiment la même chose. Donc c'est pas, il n'y a pas de suivi entre les deux. Il n'y a pas forcément de lien. Il y a une forme de complémentarité, si on veut.
Et d'évolution de la pensée, vous disiez.
Mais il n'y avait pas cette volonté-là, en tout cas.
Oui, et puis d'évolution de la pensée, puisque c'est vrai, quand vous disiez, en vieillissant, on peut changer, comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mais on peut changer d'avis sur certaines choses, on peut ou les voir sous un regard différent.
Oui.
Et c'est ça aussi, finalement. Enfin, vos livres, c'est votre vie qu'on regarde à travers de la poésie.
Oui, c'est ça, c'est par le prisme de la
votre
poésie,
évolution.
C'est se raconter. Alors ça pourrait être effectivement un récit autobiographique, hein, d'une certaine façon. Moi j'ai tendance à penser, et d'ailleurs Baudelaire le disait, hein, j'ai tendance à penser que quand on écrit de la poésie, on se livre encore plus que dans toutes les autres formes littéraires. Ce qui est un peu le cas, parce qu'on livre ses émotions, ses sentiments, son ressenti, etc., davantage encore.
Que dans un roman, par exemple, autobiographique ?
Je le pense, parce que dans le roman autobiographique, on est dans une narration, donc on passe par l'action, etc.
Et puis on invente un héros qui va nous remplacer.
Voilà, alors que dans la poésie, on est vraiment dans le ressenti, on est dans le lyrisme, on est dans l'émotion, etc. Donc on se livre davantage.
Oui, puis c'est ça, il y a une musique, c'est un peu comme les chansons de Brel, je pense à lui comme ça, où parfois il ne chante pas, il hurle son c'est avec ses tripes, quoi.
Vous me prenez au sentiment, hein, parce que Brel, c'est vraiment la référence. Alors,
ah oui.
On n'était peut-être pas si nombreux adolescents à écouter Jacques Brel comme moi, et à l'écouter encore aujourd'hui. Mais oui, c'est vraiment une référence, parce qu'en termes d'expression, d'expressivité, d'interprétation.
Puis lui, c'était pas seulement oral et musical, c'était aussi physique. C'était,
voilà, c'est ça.
Il fallait le voir.
Le verbal, et voilà.
Le voir, c'était encore plus fort.
C'est très impressionnant ce que Brel faisait sur scène. Enfin, j'ai pas eu la chance de le voir en vrai, bien sûr.
Il perdait je ne sais pas combien de kilos à chaque concert.
Mais pour moi, c'est une des grandes références de ce point de vue-là.
Voilà. Donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur sur la poésie qui se chante très bien, il y a aucun
tout
problème.
À fait.
Il y a aucun
tout
problème.
Mais Brel était un immense poète, hein. Il suffit de lire ses textes, c'était vraiment un immense poète.
Ouais. Et on pourrait parler aussi du trio Léo Ferré, Georges Brassens, c'était un trio incroyable.
Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements, tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps.
Donc du coup, le titre de ce troisième livre, parce que là j'ai, alors qu'on fasse l'émission, je ne savais pas qu'il existait.
Alors,
donc, j'ai vraiment mal fait mon boulot.
C'est pas grave du tout, non, mais en plus, il est assez récent, puisqu'il est sorti en mars de cette année, donc voilà. En février, pardon, de cette année. Alors le titre, c'est « Derrière les fenêtres ». Et alors, pourquoi ce recueil? Alors, c'est toujours de la poésie. Mais là, encore une fois, je raconte des histoires. C'est-à-dire que dans ce recueil, il y a trois histoires différentes. Deux histoires d'hommes et puis une histoire de femme. C'est-à-dire que dans mon histoire femme, qui prend la plus grande partie du recueil, je me suis mis à la place d'une femme et je parle comme si j'étais une femme. Et je raconte la vie qui pourrait être celle d'une femme qui s'est retrouvée mariée, agressée moralement, physiquement par son mari, et qui, à un moment donné de sa vie, se rend compte qu'elle n'a plus qu'une seule solution, c'est de fuir cette violence, et qui s'en va, alors un petit peu perdue forcément, parce qu'elle n'a jamais vécu comme ça, et seule, et qui se rend compte au fur et à mesure du temps qu'elle est encore capable d'aimer, d'être aimée, qu'elle peut encore vivre, et puis aimer la vie. Voilà. Donc c'était vraiment, c'est une sorte de recueil plus engagé par rapport aux autres, puisque je dénonce évidemment les violences
faites aux femmes, en général. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que, en fait, vous avez essayé de vous mettre dans la peau d'une femme, de comprendre ce qu'une femme peut ressentir, ou est-ce que c'est, et donc vous avez imaginé, ou est-ce que vous avez discuté avec des femmes pour vous aider à être encore plus précis dans votre démarche d'écriture?
Alors, c'est une très bonne question. Comme je suis très présent sur les réseaux sociaux, j'ai la chance de pouvoir échanger énormément avec mes abonnés. Et j'avais écrit un poème une fois qui s'appelait « Je ne t'aime plus », qui racontait l'histoire d'une femme qui annonçait à son mari qu'elle allait le quitter parce qu'elle avait trop vécu avec lui, parce qu'elle n'éprouvait plus d'amour pour lui, etc., etc. Et j'avais eu un paquet vraiment impressionnant de commentaires, de messages en privé, etc., de femmes en particulier qui me disaient mais comment tu peux avoir écrit ça, on a l'impression que c'est moi, enfin tu as réussi à écrire ce que moi je suis incapable d'écrire. Et là je me suis dit
c'est
oui,
ce que je voulais dire moi.
Voilà, c'est ce que je voulais dire, mais je m'étais lancé dans cette aventure-là sans vraiment réfléchir et c'est venu presque naturellement. Et c'est ça qui a déstabilisé un petit peu mes lectrices en particulier. C'est-à-dire, elles se sont dit, on dirait véritablement une femme qui parle.
En fait, c'est pas un homme qui a écrit, c'est un pseudonyme. En réalité, c'est une femme.
Je pense que j'aurais pu mettre le prénom d'une femme et ça passait.
Ça passait tout seul.
Ça passait crème, il n'y avait pas de problème. Hein. Et donc, ça a un petit peu déstabilisé les lectrices. Et puis, à partir de cette idée-là, je me suis dit, mais il faut que je parle aussi pour elles, c'est-à-dire pour elles au pluriel, hein, pour les femmes. Et que j'utilise, alors je ne sais pas si on doit appeler de ça une capacité, un don, j'en sais rien, je ne sais pas du tout. Ça m'est venu comme ça, et puis ben, j'ai écrit cette histoire. Voilà.
Et puis, je pense aussi que ça doit être doublement apprécié par les femmes, parce que c'est un geste de la part d'un homme de solidarité vers les femmes, de compréhension, de dire je suis avec vous, je vous comprends, je vous soutiens, je suis un homme, mais je peux aussi être, comme vous, sensible à la violence de masculine.
C'est ça, passer l'étonnement et la surprise, effectivement, il y a une adhésion qui est presque naturelle, parce qu'on se rend compte que l'objectif, c'est de véritablement, alors je ne sais pas si je peux dire jusqu'à faire changer les mentalités, mais je l'espère quelque part. Hein. Mais en tout cas, faire prendre conscience qu'il y a des choses qui étaient peut-être comment dire, qui existait auparavant, qui était presque tolérable auparavant parce que ça faisait partie de la norme, mais qui aujourd'hui ne sont plus du tout tolérables.
Voilà. Ouais, voilà. Eh bien, on va quand même préciser que ces trois livres en question sont en auto-édition, on est d'accord ?
Alors, pas du tout.
Vous êtes chez un éditeur.
Alors, non, Edilivre, c'est vraiment une maison d'édition, hein, c'est pas une auto-édition, hein. C'est une maison d'édition, donc les livres sont disponibles soit sur la plateforme de la maison d'édition, soit en librairie, sur Amazon, ou bien commande directe auprès de moi.
D'accord, et puis les prix ?
Alors le premier recueil, il est à 10,50 €, le deuxième il est à 12 € et le troisième à 13 €.
Très bien, comme ça c'est pour que les gens sachent.
Voilà.
Donc pas de problème, ils vont dans toutes les librairies de la Sarthe.
Oui, et puis s'il n'est pas là, ils commandent. Ils n'ont pas accès véritablement aux librairies, il y a Amazon, voilà, il y a la FNAC, Amazon, etc.
La FNAC partout. Un quatrième projet ?
Alors, un quatrième, un cinquième et un sixième.
Ah, ça y est, il y a déjà, tout est dans la tête.
Non, c'est commencé.
Ah, c'est commencé.
Voilà, alors le quatrième projet auquel je pense en premier lieu, c'est Paroles d'étudiants, hein, que je suis en train d'écrire avec des étudiants du campus Saint-Charles du Mans. Alors au départ, je cherchais un moyen l'été dernier de les faire travailler sur l'écrit, le français, etc. De les aider à trouver des solutions pour s'améliorer en orthographe, en expression. Et j'avais envie de leur proposer un projet peut-être un peu différent de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et m'est venue ensuite l'idée d'écrire un recueil avec eux, où je leur laisse la parole, libre. C'est-à-dire qu'ils utilisent la forme qu'ils veulent, poétique ou pas poétique, pour exprimer ce qu'ils ont ressenti de ces deux, trois dernières années, en particulier avec le confinement, la Covid, etc.
Ah oui, puis ça c'est intéressant parce que pour eux c'est un sacré encouragement parce que se retrouver publié grâce à leurs profs, leurs textes, avoir ces textes publiés quand on est un élève, c'est extraordinaire. Pour eux, c'est
un
enchantement.
Je pense qu'il y a eu... Alors, c'était délicat parce que même moi je ne savais pas du tout où on allait aller. Hein. Je pouvais très bien me planter, entre guillemets, là-dessus. Mais ça c'est ça
il y a eu un enthousiasme
un vrai enthousiasme, alors un peu de surprise bien sûr, hein, mais un vrai enthousiasme. Et puis après je pense qu'ils ont compris de l'intérêt que ça pouvait présenter pour eux de pouvoir parler librement. Voilà, et là j'ai eu des surprises. On se rend pas toujours compte,
on découvre ses élèves à travers
ses élèves, et on découvre une jeunesse aussi qui parfois est meurtrie quand même, hein, de ce qui se passe depuis quelques années.
Et très consciente de ce qui se passe, contrairement à ce qu'on
beaucoup
peut imaginer.
Beaucoup plus lucide parfois qu'on ne pense.
Oui,
c'est vrai.
Je ressens comme exemple,
hein, j'ai eu un texte sur la solitude, par exemple, ce qui m'a complètement surpris, bien sûr. J'ai eu des textes sur le mal-être aussi, et là je ne m'y attendais pas. Enfin, des choses très fortes, en fait.
Ouais, c'est une occasion de se lâcher sur...
Complètement.
Parce qu'on,
d'ailleurs, c'était l'idée. Hein,
on ne connaît pas trop leur vie privée, en fait, quand on est prof.
Non.
On a des élèves en face de soi.
Non, et je pense qu'il faut arriver aussi à leur permettre d'expliquer qui ils sont.
Bon, bah écoutez, Franck Jury, merci.
C'est moi qui vous remercie, véritablement.
Il est déjà temps. Donc, il est temps qu'on se sépare.
Merci
donc, pour, je pense que vous savez tout à peu près sur Franck Jury, sur ce qu'il a écrit. Il n'y a plus qu'à acheter ses livres. Et puis sinon, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité et pour une nouvelle émission. Merci, au revoir.